I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Ce soir, dans l'Amérique et vous, nous faisons le point sur la situation au Soudan. Les négociations ont repris, même si l'inquiétude demeure au sein de la population. Évidemment, l'Amérique et vous, vous le savez, c'est toujours une émission qui essaye de tendre des ponts entre le continent et les États-Unis. Et aujourd'hui, bien entendu, nous allons évoquer le fait que les États-Unis aient pris pied dans ce conflit. Ils ont nommé un émissaire spécial, Donald Booth, et Tibor Nagy, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, a passé plus de 2 jours à Khartoum et il est aujourd'hui à Addis Abeba. Nous serons en compagnie de plusieurs invités, de notre envoyé spécial à Khartoum, Patricia Huon. Bonsoir Patricia.
Bonsoir.
Nous serons également en compagnie de Souleymane Baldo, conseiller à Enough Project et spécialisé sur le Soudan. Bonsoir Monsieur Baldo.
Bonsoir.
Et de Mohamed Nagy, le rédacteur en chef du magazine Sudan Tribune. Bonsoir Monsieur Nagy.
Oui, bonsoir.
Alors, comme dans chaque émission, si je m'adresse évidemment à notre audience, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct en appelant le 001-202-205-2633 ou le +1, bien sûr, si vous utilisez vos téléphones portables, 202-205-2633. Alors, nous allons commencer tout de suite cette émission en faisant un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Évidemment, sur les antennes de VO Afrique, nous suivons la situation au Soudan depuis plusieurs mois, au jour le jour. Alors, faisons le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui après la conférence des généraux. Peut-être, Patricia, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pouvez faire un petit point pour nous?
Oui, donc cette conférence de presse s'est tenue hier soir. Le Conseil militaire de transition a reconnu pour la première fois avoir ordonné la dispersion donc d'une partie du sit-in le 3 juin, car selon les militaires, des activités illégales s'y déroulaient. Maintenant, le Conseil militaire de transition nie avoir ordonné le massacre qui a ensuite été commis. Il admet que des erreurs ont été faites et déclare que les résultats d'une enquête interne devraient être publiés demain. Pas d'enquête internationale, donc, comme cela avait été demandé par les civils. Et puis, le Conseil militaire a aussi affirmé qu'il y aurait eu 2 tentatives de coup d'État, que la coupure du réseau Internet était nécessaire pour la sécurité du pays. Il a présenté la coalition d'opposition comme divisée et arrogante et a aussi dit douter que les négociations puissent aboutir, bien qu'il se dit prêt à reprendre celle-ci. Donc peu de signes de compromis du côté des militaires, alors que les représentants de la société civile continuent de demander que plusieurs conditions soient remplies avant d'accepter de reprendre des négociations directes.
Alors, évidemment, beaucoup de points dans tout ce que vous venez de dire, Patricia. Je vais m'adresser à Monsieur Baldo. Alors, le secrétaire d'État américain, Tibor Nagy, a appelé, évidemment, à une enquête indépendante et crédible aujourd'hui sur la dispersion meurtrière. Pensez-vous, Monsieur Baldo, que même si, évidemment, on a entendu le point avec notre reporter, pensez-vous que une enquête va être menée?
Je ne pense pas que les militaires vont accepter une enquête internationale indépendante comme le demande l'opposition. Pourquoi? Parce que hier, dans cette conférence de presse, le porte-parole du Conseil militaire de transition a admis pour la première fois devant tout le monde que c'est le comité de ce conseil militaire de transition qui a ordonné l'attaque sur, bien sûr, un point qu'ils, disons, insistent que c'était un point qui était un peu, disons, des activités hors la loi qui s'est passé, mais qu'il y a eu des dérapages. Or, c'était une opération menée par des milliers de soldats, une opération conjointe de l'armée, des forces de déploiement rapide, des forces de sécurité et de la police, impliquant plusieurs milliers. Et ils sont tirés sur les protestants sans armes qui étaient dormis pendant presque une heure, 53 minutes. Donc l'intention de tuer tous ces gens-là, de violer les femmes qui se trouvaient sur place, y compris des femmes médecins qui soignaient les blessés, et puis d'essayer de se débarrasser des traces de leurs crimes en enlevant des corps des protestants qui ont été tués pour les jeter sur les eaux de Nil, c'est un crime horrible, un crime contre l'humanité. Et le conseil de transition des militaires n'acceptera jamais une enquête indépendante. Il voudra bien diriger cette enquête. Et d'ailleurs, ils ont fait un comité d'enquête interne. Ils vont annoncer ces résultats demain.
Alors, ces événements tragiques, bien sûr, les événements du 3 juin ont marqué un virage à 180 degrés dans le déroulement des événements au Soudan. C'est ce qu'a dit Tibor Nagy aujourd'hui. Mohamed Nagy, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse du secrétaire d'État américain?
En fait, le secrétaire d'État, effectivement, il est allé, il a recommandé aux militaires soudanais, effectivement, de mettre en œuvre, de prendre un certain nombre de mesures en vue de faciliter la reprise des négociations entre les parties. Cela étant dit, il faut bien savoir que la médiation américaine, on va surtout est la pour but de faciliter la mission du premier ministre éthiopien qui est chargé par l'Union africaine de aider les partis à conclure un accord en vue de rendre le pouvoir aux civils. Donc il y a un mandat très clair en réalité par rapport à ça, et lui, et comme il y a Dizia Kukan qui est chargé de cette mission, lui, il vient juste pour encourager les partis et les inciter à aller dans le sens du dialogue en vue d'achever d'achever la remise du pouvoir au civil.
Mais si on parle de cette enquête, et pour finir sur ce dossier, est-ce que vous pensez qu'une enquête va être menée ces événements du 3 juin?
Baldo, effectivement, c'est pas une enquête menée, mais il y a déjà une enquête en cours qui devait annoncer ses conclusions hier, mais ils ont dit, pour des raisons qui sont propres même à cette commission d'enquête, qu'ils ont préféré de les annoncer demain le samedi. Donc voilà, on attend demain.
Vous attendez,
mais
d'accord.
Mais oui, c'est vrai aussi, comme il l'a dit Boldu, c'est-à-dire il y a quelque chose de très important qui a été fait hier, un pas, j'allais dire, qui a été franchi, c'est d'admettre, de reconnaître sa responsabilité par rapport à ce fait, même si c'est en reconnaissance partielle, mais en soi, elle confirme les rapports et les témoignages qui ont été faits par les victimes.
Alors, on va reparler un petit peu de la vie sur place. Donc, le mouvement de désobéissance civile a été levé. Patricia, vous êtes sur place. Est-ce que vous constatez que est-ce que la vie a complètement repris ou est-ce que c'est un petit peu au ralenti? Qu'est-ce qui se passe?
L'activité est presque de retour à la normale à Khartoum. Il y avait donc eu 3 jours de désobéissance civile et de grève, un mouvement qui a été très largement suivi. Les membres de la contestation ont appelé les Soudanais à retourner au travail donc ce mercredi. Il faut dire que le mouvement commençait déjà à s'essouffler, non pas parce que les gens ne le soutenaient pas, mais pour des raisons pratiques. Beaucoup de gens ici survivent au jour le jour, sont payés à la journée. Et donc je discutais avec certains commerçants qui avaient recommencé à travailler le mardi, par exemple, qui disaient c'est juste pas possible de tenir sur le long terme. Il n'y avait plus d'argent, il fallait nourrir la famille. Donc ça ne pouvait pas durer éternellement. Maintenant, les contestataires continuent de dire que ce mouvement pourrait reprendre et qu'il s'agit d'une suspension pour le moment en attendant de voir où peuvent mener les médiations.
Justement, où peuvent mener les médiations, Monsieur Baldo, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce qu'à votre où ces médiations peuvent-elles nous emmener?
Bien sûr, les médiations, c'est le Premier ministre éthiopien. Allô.
Je vous entends très bien, on vous entend très bien, Monsieur Baldo.
Oui, c'est bien. C'est le Premier ministre éthiopien qui fait la navette entre les deux parties. Mm-hmm. Les forces de changement et de liberté ont refusé parce qu'ils ont perdu la confiance. Ils ne reconnaissent plus la légitimité de ce conseil militaire de transition. Ils ne veulent plus les rencontrer directement. Ils s'appuient sur la médiation de l'Union africaine qui, elle, est reconnu comme tout à fait bien, disons, légal de la part de la communauté internationale tout entière. L'Union européenne s'aligne sur la médiation de l'Union africaine comme les États-Unis. Et donc ça constitue une pression externe énorme. Mais cette pression externe est en quelque sorte affaiblie et neutralisée en grande mesure par le soutien conditionnel de l'Arabie Saoudite et de les Émirats Unis Arabes, qui, eux, veulent que le Conseil militaire reste au pouvoir parce qu'ils mènent la guerre avec eux sur le peuple du Yémen. Et donc, les Soudanais, l'armée soudanaise, les milices soudanaises de forces de déploiement rapide sont là-bas comme des mercenaires pour les Saoudiens, pour les Émiratis, qui les payent pour stabiliser la situation en leur faveur et qu'ils leur disent qu'il ne faut pas concéder quoi que ce soit à cette demande de transfert de pouvoir aux civils. La démocratie elle-même, ça représente une menace directe à ces monarchies tout à fait autocratiques et dictatoriales dans la région. Et donc il y aura un enjeu où le Soudan sera comme une balle de ping-pong jouée entre l'Union africaine qui a une stance très ferme et l'Arabie Saoudite et l'Union, disons, les Émirats, qui vont chercher à consolider la position du Conseil militaire.
Merci beaucoup, Monsieur Baldo. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir laissé vos commentaires sur notre page Facebook. De nombreux auditeurs qui ont des avis relativement partagés. Et nous avons au téléphone Alassane Ouedraogo du Burkina Faso. Alassane, qui est coordinateur de l'organisation de la société civile burkinabé, le mouvement 226 citoyens. Et vous aviez un point très important à faire et vous mettez ça un petit peu en relation avec l'expérience que vous avez eue au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça en quelques phrases et peut-être que Monsieur Nagy pourra répondre.
Ok, merci. C'est comme on pourrait dire pour l'expérience burkinabé. C'est qu'au début, avec l'excitation, avec l'agitation, quand on était dans le feu de l'action, tout le monde réclamait une transition karma civile. C'est ça aussi les recommandations de toutes les institutions internationales, de la communauté internationale. Mais au Burkina, nous qui étions sur le terrain, on a compris qu'on ne peut pas, en tout cas, il faut faire des concessions. Quand on veut faire réussir en tout cas une transition, il ne faut pas exclure un pan en tout cas de la nation. Dans ce sens qu'au début, on a mis la pression sur les militaires qui sont venus prendre le pouvoir, notamment par le lieutenant-colonel Yacouba Ibakouida.
Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, donc votre transition a été réussie parce que vous avez accepté de cohabiter avec les militaires. Alors, Mohamed Nagy, attendez, on va poser la question au rédacteur en chef du magazine Sudan Tribune. Mohamed Nagy, pensez-vous la négociation et que les négociations réussiront et que la transition réussira si à la fin on arrive à une cohabitation avec les militaires?
Au fait, c'est la thèse des militaires. En réalité, indépendamment des raisons externes qui ont été évoquées, Il s'agit aussi de se dire s'il y a blocage dans les négociations. On est dans l'impasse parce qu'intrinsèquement, les militaires ont un problème. Ce problème qui relève d'un certain Hemeti, qui est le chef du milice, comme vous le savez, et donc où et un certain nombre d'autres généraux dans l'armée, ils ont peur d'être pris dans la une fois la transition au pouvoir civil est faite, ils ont peur d'être pris comme responsables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans les différentes parties du pays, et surtout au Darfour. Et donc, ça a été clairement au fait dit par les militaires dans différentes interviews, c'est-à-dire si on remet le tout, on lit, on comprend parfaitement qu'ils ont comme ceci, cela, c'est-à-dire ils veulent des garanties au fait qu'eux ne seront pas un jour traduits en justice. Et c'est pour ça qu'ils tiennent à avoir, j'allais dire, la présidence du Conseil de souveraineté, ou le Conseil souverain, mais aussi ils ont un autre discours qui joint ce que notre ami Ouedraogo qui a dit, c'est que nous plaidons pour la réconciliation, pour le pardon, ainsi de suite. Donc voilà,
D'accord. Alors, je vais demander la réaction de Monsieur Baldo également sur cette question. Monsieur Baldo, est-ce qu'on peut tirer peut-être des enseignements de la transition pacifique burkinabé?
Certainement, parce que le peuple soudanais a adopté le slogan et la pratique de, disons, la protestation pacifique. Même quand il était sous les balles tirées par la sécurité du général al-Béchir et maintenant de ses généraux qui continuaient à tirer sur la population. Ils sont toujours restés paisibles et demandant un changement politique par les moyens pacifiques. Je crois que c'est cette volonté, cette persistance de la population soudanaise qui va à la fin triompher. On ne rejette pas une participation militaire, mais qu'elle ne soit pas une participation dominante. Or, ce conseil de militaire de transition voudrait bien préserver les acquis et les bénéfices que les forces armées, dans toutes ses composantes, a obtenus sous le général Béchir, c'est-à-dire une autonomie économique hors budget, une impunité totale sous la loi de l'armée et comme sous la loi de l'organe de sécurité et puis les forces de déploiement rapide, ils veulent bien préserver ce privilège-là. On ne peut pas réformer l'État après 30 ans de corruption massive, d'un conduit génocidaire, comme cela est arrivé au Darfour, alors que ces mêmes forces préservent ces pouvoirs tout à fait démesurés et qui ne vont pas avec un État civil moderne, n'est-ce pas? Alors, et c'est pourquoi c'est la même raison réelle que les discussions ont arrêté.
Merci beaucoup, M. Baldo. Je vais me retourner vers Patricia. Vous qui êtes sur place, vous avez rencontré beaucoup de monde. Est-ce que vous avez le sentiment que la population a gardé quand même espoir d'une transition pacifique?
Bien, ce qui est sûr, c'est que l'élan démocratique a pris un vrai coup dur. Mais moi, j'ai l'impression que les gens veulent encore y croire. Cependant, en ce moment, sans mot d'ordre clair des leaders de la contestation, eh bien, il y a un peu comme une période de flottement. Et puis, il y a aussi le choc, le traumatisme du massacre du 3 juin qui est encore là. Et j'ai le sentiment qu'il y a un climat de peur aussi qui s'est réinstallé, des rumeurs qui sont alimentées aussi par la coupure totale d'Internet, qui rend aussi plus difficile la mobilisation. On l'a évoqué, mais je pense que c'est important de le dire, que ce qui marque, c'est vraiment le fait que malgré leur colère, eh bien, presque toutes les personnes à qui j'ai parlé continuent de prôner une résistance pacifique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cet après-midi, une jeune femme me disait que ce que les militaires militaires attendent, elle me disait, c'est que nous prenions les armes pour pouvoir nous tirer dessus, pour justifier le fait de nous tirer dessus, et nous n'allons pas leur donner cette opportunité.
D'accord. Merci, merci Patricia. Je rappelle que vous êtes notre envoyée spéciale à Khartoum. Alors, nous avons plusieurs auditeurs qui sont en attente et qui ont des questions, notamment Benoît qui nous appelle Benoît Cabet de Kinshasa en RDC. Alors, vous pouvez poser votre question à nos trois invités, à moins que vous sachiez qui vous voulez une réponse. On vous écoute, Monsieur Cabet.
D'accord, merci. Bonjour, bonsoir à la radio du monde. C'est moi, je pars tout droit vers mon ami Nakui et qui a fait un petit tour chez nous ici en RDC. J'aimerais savoir si réellement les États-Unis ont le pouvoir. Et les États-Unis sont une grande puissance. Et si les États-Unis ont le pouvoir, je suis sûr l'Afrique. Pourquoi pas ne pas prendre directement des décisions sur le pouvoir africain que de commencer à faire des tours de ce que nous avons vécu ici, par exemple chez nous en Afrique.
Alors peut-être Monsieur Baldo. Oui. Peut-être
Monsieur. Savoir quel est l'intérêt que les États-Unis entendent en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique.
D'accord.
La question la dernière est de savoir, depuis que nous avions débuté avec des transactions de États-Unis en Afrique, qu'est-ce que nous avions comme déjà résultat que nous avions opté, que nous avions reçu dans tout ce que les États-Unis ont en train de faire ici chez nous en Afrique?
Très bien, merci beaucoup. Alors, si les États-Unis intervenaient, quels seraient leurs intérêts? C'était votre deuxième question. Peut-être, Monsieur Baldo, vous qui êtes bien sûr donc conseiller à Innov Project, une organisation qui est basée aux États-Unis, peut-être que vous avez un avis là-dessus.
Oui, c'est-à-dire les États-Unis sous l'administration du président Trump ne s'intéressent que très peu au continent africain. On connaît bien l'attitude de dégagement de la politique externe des États-Unis sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de soutien à la démocratisation. Et d'ailleurs, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas entendu le secrétaire d'État Pompeo se prononcer sur la question de la situation au Soudan d'une manière qui soutient, disons, le mouvement pro-démocratique là-bas. Et ce n'est pas seulement les déclarations que l'on voudrait, ou bien des États-Unis. Les États-Unis ont des moyens beaucoup plus importants pour vraiment, s'ils veulent bien le faire, pousser ce conseil militaire, disons, répressif déjà, à vraiment composer et céder le pouvoir aux civils. Or, ils se sont contentés jusqu'à présent, les États-Unis, de faire des déclarations, même si, la nomination du envoyé spécial dénote qu'ils sont déjà très alarmés et voudraient bien rehausser un petit peu la représentation de la diplomatie américaine en traitant cette crise au Soudan.
Merci beaucoup, Monsieur Baldo. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais redonner la parole à Mohamed Nagy, rédacteur en chef du magazine Sudan Tribune. Pour finir cette émission, est-ce que vous auriez si vous voulez, la conclusion que vous aimeriez donner à cette émission, Monsieur Nagy?
En fait, puisqu'on parle de la médiation américaine, il faut dire que les Américains, s'ils interviennent dans le conflit soudanais, c'est parce qu'ils ont aussi un intérêt dans cette histoire et la nomination, effectivement, d'un envoyé spécial sous l'administration Trump pour le Soudan, c'est en soi un événement grandiose qui démontre combien les États-Unis s'intéressent à la paix au Soudan. C'est pas parce que par amour aux Soudanais, mais c'est parce qu'aussi il a des intérêts dans la région et dans le cadre de combat contre le terrorisme dans le pays du Sahel.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nagy. Je rappelle que vous étiez rédacteur en chef du magazine Sudan Tribune. C'est déjà la fin de cette émission. Je vais saluer notre correspondante Patricia Huon, que vous entendrez à nouveau durant nos prochains journaux. Merci, Patricia, d'avoir été en direct de Khartoum avec nous.
Merci, au revoir.
Et puis, je remercie évidemment Souleymane Baldo, conseiller à Enough Project, une organisation basée à Washington DC. Restez avec nous tout de suite, Le Monde Aujourd'hui, présenté par Nathalie Barge. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.